Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Il s'agit d'une avancée discrète dans cette zone fragile où la vie peut basculer sans prévenir. Peut-être une rencontre, un détour, un instant suspendu, un accident, un projet, un rêve, une intuition ou une prémonition. Puis, quelque chose s'installe, une impression nette, silencieuse, selon une cohérence secrète qui attendait son heure. À la croisée des chemins, entre hasard et nécessité, des trajectoires se frôlent, se déplacent, se répondent, voire s'entrechoquent. On croirait choisir, mais peut-être est-on simplement conduit, comme une évidence, comprise, sans explication. Et si ce n'est pas évident pour vous, restez avec nous, Christine Sérignac vous dit tout sur son nouveau recueil de nouvelles et comme une évidence, paru aux éditions du Lys Bleu et couronné par le prix de la nouvelle 2025 du Salon du Livre des Gourmets des Lettres. Bonjour Christine Sérignac.
Bonjour Gilbert.
Merci d'être des nôtres et de rendre visite donc à Parole d'auteur. Donc je rappelle votre ouvrage et comme une évidence, sous-titré « Nouvelles à lire dans l'ordre ».
Exactement. Voilà.
Alors, je salue nos fidèles auditeurs et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Christine Sérignac, vous commencez par une citation dans votre livre. Vous citez donc Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Est-ce que c'est important, c'est quelque chose de constaté par vous-même dans votre expérience ?
Je pense que oui, on pense que le hasard a une grande place dans la vie de chacun, mais en même temps, les rendez-vous sont là aussi. La vie, c'est des rencontres avec les gens, c'est l'impact qu'on peut avoir sur les autres et inversement. Donc, finalement, on n'est pas si maître que ça, peut-être, de son destin.
Alors, on va y revenir plus en profondeur, ouais, un petit peu plus tard dans l'émission. Mais effectivement, c'est cette notion de hasard, de rencontre, d'aléa, oui, qui est un petit peu la trame de votre ouvrage. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites dans la vie ?
Je vais au cinéma.
C'est bien.
Alors, avant tout, j'aime toutes ces choses-là au niveau culturel et en même temps, je fais un métier basé sur l'humain puisque je suis assistante sociale.
Et donc, c'est une activité qui a été déterminante dans l'écriture de ce livre.
Je crois que tout est déterminant dans l'écriture de ce livre. Mon métier, parce que je l'exerce depuis presque 26 ans, que c'est un métier de rencontre, que c'est un métier d'écoute. C'est un métier dans lequel l'outil de travail, c'est moi. C'est le travailleur social, c'est ça. Il absorbe, il analyse, il rencontre. Et en même temps, tout ce qui me permet aussi d'alimenter l'écriture, c'est-à-dire c'est la musique, c'est le cinéma, c'est lire d'autres livres, en fait, c'est un tout, en fait. C'est comme une éponge, en fait.
Et donc, vous avez restitué l'éponge dans le livre.
Un peu ça, on va dire que je l'ai pressé très fort. Et les personnages en sont sortis. Il y a beaucoup d'imagination, il y a aussi du personnel. Mais on ne s'en rend pas forcément compte au fur et à mesure de l'écriture. C'est après où on s'y reconnaît et où d'autres personnes aussi s'y sont reconnues.
Alors, vous allez nous expliquer ça en détail. Auparavant, je voudrais qu'on s'arrête sur votre bibliographie. Donc, si je ne m'abuse avec cet ouvrage, vous avez publié à ce jour trois livres.
Oui.
Donc. Oui. Alors, un premier qui s'appelle « Mes 30 gourmandises ».
Oui.
Alors, dites-nous un petit peu.
Alors, mes 30 gourmandises, c'est 30 nouvelles, petites, courtes, qui n'ont pas forcément de lien. Et ce livre a été mon premier recueil. Alors, on dit souvent que l'écriture pointe le bout du nez quand c'est le bon moment. Ben, moi, ça a été la période de Covid, 8 jours d'arrêt, et l'écriture est arrivée. Comme j'ai eu un regard extérieur de quelqu'un qui écrit aussi et qui m'a dit « c'est pas mal », à ce moment-là, j'ai continué d'écrire. Quand je suis arrivée à 30, je trouve que c'était le bon nombre. Donc, mes gourmandises, c'est le plaisir que j'ai pris à les écrire et à les faire lire. Donc, pour moi, c'est comme un métier de bouche, l'écriture. C'est donner envie, en fait. Vous savez, c'est comme quand vous salivez devant une couverture, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça vous donne envie de l'ouvrir. Comme une
Alors,
boîte.
C'est gourmandise. Quel est le sujet ?
Alors, il est très varié. Ça veut dire qu'on peut parler de gens, de personnages, de choses. La construction, c'est qu'effectivement, le début de la lecture vous amène vers une fin inattendue. Donc, elles peuvent faire 10 lignes, comme elles peuvent en faire 40 ou un peu plus. Voilà, ça touche un peu tout. Il n'y a pas de lien. Ça raconte l'histoire de gens, voilà, qui se croisent et pour lesquels le hasard n'existe pas forcément, mais ils ne le sauront qu'à la fin. C'est un peu tout ça, c'est un mélange de tout, et des objets aussi, parce que pour moi les objets ont une vie, donc là aussi c'est important.
Ça compte aussi.
Ouais.
Alors vous avez publié donc Et comme une évidence, mm-hmm. que l'on va regarder de manière très, très rapprochée, mais j'ai vu aussi, alors vous me dites si je me trompe, que vous avez publié en 2025 un ouvrage qui s'appelle Les Intimistes.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est ces Intimistes ?
Les Intimistes, c'est l'histoire de 11 personnages qui n'ont pas de lien entre eux, en différent de Et comme une évidence, et qui ont quand même la particularité, le point commun de vivre dans la même ville que j'ai choisie, au bord de la mer. Et j'introduis chaque histoire qui est une nouvelle à part entière par un petit paragraphe qui décrit le lieu où habitent ces personnes. Parce que j'estime que quand on décrit le lieu où on habite, c'est comme quand vous rentrez chez quelqu'un, que vous découvrez sa déco, ses goûts, etc. C'est le début d'une histoire qui commence. Donc en fait, j'aime beaucoup écrire et que les gens visualisent les choses. Et donc en écrivant un petit paragraphe sur comment leur a été transmis ce bien, cette maison, comment ils l'ont eu, est-ce que c'est un legs, un achat, ça campe déjà le décor. Et en fait après Les Intimistes, pourquoi ? Parce que j'invite les lecteurs à laisser un peu la porte dans l'entrebâillement de leur porte hein, pour les voir vivre quelques heures, quelques jours, quelques semaines dans ces maisons auxquelles ils nous ouvrent un peu la porte. Hein. Voilà.
C'est important de bien planter le contexte.
Oui, parce que Les Intimistes, déjà le titre n'est pas choisi par hasard. J'invite les gens à rentrer dans l'intimité de ces gens. C'est-à-dire, comme j'explique souvent quand je vais dans les salons du livre aux potentiels lecteurs de mes livres, que c'est comme quand on se balade dans la rue, que la nuit tombe, que les gens éclairent leur lumière et que vous passez devant et vous vous dites « j'aimerais bien rentrer dedans, ça me donne envie ». En fait, j'avais envie d'inviter les gens à rentrer chez ces personnages et découvrir un peu la face cachée de l'iceberg qu'on ne connaît pas toujours quand on croise son voisin. Voilà.
Alors, à travers cette description rapide que vous faites des livres que vous avez écrits, on sent bien que vous avez des thèmes de prédilection.
Hein, oui.
Hein, tout ce qui est émotion,
oui.
Tout ce qui est un peu intimité ou vie des individus.
Mmh.
Hein, ça, c'est très
c'est
important. Vous avez aussi un intérêt marqué pour tout ce qui est... complexité des individus ou au moins des relations entre les individus. Ça, c'est quelque chose qui vous interpelle ?
Oui. Tous mes personnages que je visualise, en fait, hein, quand j'écris, je les visualise Alors, j'ai une façon d'écrire qui est un peu particulière. Je ne me pose pas pour écrire en me disant « Aujourd'hui, je vais écrire une histoire et je me donne une heure ». Il suffit d'un point de départ qui peut être une situation dans la rue ou dans mon travail ou peu importe, quand je suis en voiture. Et de là, je déroule la pelote en fait et l'histoire se construit. Voilà. Et je ne sais pas comment, mais j'arrive à une fin qui amène un peu dans une déambulation et en même temps, on ne sait pas trop. Donc, vous décrire mon schéma mental sur l'écriture, je ne peux pas. Mais en soi, je suis très... Je suis très, comment dire, très attentive à tout ça, aux gens, à leur intimité, au fait qu'on puisse avoir une face pile et une face, quoi. C'est comme une pièce de monnaie, en fait.
D'accord. En fin de compte, vous glanez pendant, pendant la journée des éléments au hasard peut-être que vous allez enregistrer que vous allez exploiter plus tard.
Alors oui et non, si je le fais, je le fais inconsciemment. Parce que je ne me dis pas, je vais forcément m'en servir, mais il y a des fois des situations qui reviennent dans mon esprit plus tard en me disant, c'est vrai, cette situation était un peu atypique, ou pourquoi ne pas partir de cette image-là pour faire partir une histoire. Ou il y a plein de choses, il y a plein d'émotions, etc., qui peuvent me faire démarrer une écriture, une musique, une image dans un film. Tout est nourricier, en fait, voilà. C'est particulier, mais j'ai pas de... Ouais, c'est comme un sac. Et des fois, il y a quelque chose qui en sort, mais pas forcément parce que je le demande. Parce que c'est le moment, en fait.
Et alors, est-ce que vous avez des périodes où vous faites une petite pause et vous allez rechercher dans le sac ou alors, il y a un autre processus?
Oui, il y a un autre processus. En fait, l'écriture est mise en marche. Et je vais piocher consciemment ou inconsciemment dans ce sac quand je ne vais pas bien. C'est comme si l'écriture était un exutoire à des moments un peu complexes. Et je me suis aperçue, mais avec le recul, je ne m'en étais pas rendu compte, que j'ai beaucoup écrit et ce qui est sorti et qui a été édité, ça a été dans des périodes un peu complexes, oui.
D'accord. Oui. Vous n'écrivez pas dans la joie?
Alors, j'essaie d'écrire des moments de joie, mais pour ça, je me nourris de ma tristesse, entre guillemets. C'est comme s'il y avait un balancier qui rééquilibrait la balance, en fait, et qui disait que cet état où on n'est pas top, qui permet d'écrire, finalement, d'écrire des choses qui sont des fois positives, ça permet de rééquilibrer des choses, en fait. C'est comme un équilibre, l'écriture.
Et il y a longtemps, vous avez pris conscience de ça?
Non, je vais dire depuis quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à écrire et que quelque chose est sorti, donc c'était pour mes 30 gourmandises, et c'était en 2021.
Donc c'est relativement récent.
Oui, oui.
Et vous avez un souvenir particulier, précis, d'un élément déclencheur au-delà du Covid?
Ah oui, bien sûr, il y a des choses dans ma vie personnelle qui ont fait que, qui a fait que, oui, ça a été un déclencheur. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui.
Nous avons bien compris. Alors, vous nous disiez à l'instant que vous étiez très vigilante à capter un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a un moment où vous prenez une décision d'écrire.
Oui.
Alors, dans ce processus, vous prenez la décision d'écrire, c'est-à-dire vous avez envie d'écrire et sans doute vous avez la matière. Comment ça se passe?
C'est spontané. C'est vraiment spontané. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est une idée qui germe. Je ne sais pas vous expliquer mon processus mental. C'est pas comme un roman historique ou un roman où on construit longuement la personnalité des gens, on leur crée un physique, des particularités de caractère, etc. Moi, j'écris d'un jet et les histoires qui sont dans le livre, elles ont été écrites d'une traite. Et en fait, ma penser quand j'écrivais des histoires, c'est qu'au bout de la deuxième, qui n'avait pas de lien, je m'étais dit, mais pourquoi ne pas lier les histoires de ces différents personnages pour rendre comme un fil conducteur un intérêt particulier au livre? Parce que lire une histoire en tant que telle, où on pioche une petite nouvelle à droite à gauche, était intéressant, mais je l'avais fait dans le premier. Et dans ce second, j'avais envie de cette particularité. Et c'est bêtement, hein, j'écrivais et je me dis, oh, ben, cette deuxième histoire est bien. Je vais axer que sur des personnages cette fois-ci. Et je me dis, il faut qu'il y ait du lien. Et à partir de cette idée, quand j'ai écrit les histoires, je les ai forcément écrites en les liant dans mon esprit par un événement, une petite porte d'entrée qui a fait que.
D'accord.
Mais il n'y a pas de, je n'ai pas de méthodologie, je n'ai pas de méthode. Je peux passer des mois là sans écrire. Là, je suis en plein déménagement, donc j'ai un esprit qui est un peu occupé à autre chose. Mais peut-être qu'après, je vais me reposer et ça va être un point de départ à un autre travail d'écriture. Je ne sais pas.
Alors, on comprend qu'il y a la spontanéité dans l'écriture,
oui.
que que c'est presque d'un seul jet.
Oui.
Néanmoins, à l'issue de ce jet-là, est-ce que vous avez un processus de relecture, de recomposition de vos textes?
De modifier, de oui. Modification non. Très, très peu. Très, très peu. Enfin, très, très peu, parce que quand j'écris ce type d'histoire, quand je la débute, comment vous dire, c'est comme si le... c'est terrible de dire ça, mais enfin, c'est comme si le film se déroulait devant mes yeux. Donc, automatiquement, une idée en entraîne une autre, en entraîne une autre. Et je me dis, bon, maintenant, on va amorcer la fin. Et automatiquement, la fin est trouvée. Quand j'arrive au milieu de l'histoire et que j'arrive pas à m'en dépatouiller, je laisse tomber parce que pour moi, c'est... Il y a un mauvais fil conducteur dans l'histoire et je n'arrive pas à la terminer. Voilà, mais c'est un fonctionnement que j'ai beaucoup de mal à expliquer parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans une maîtrise de l'histoire. Quand je la débute, je ne sais pas comment je vais la terminer, je ne sais pas.
D'accord. En tout cas, en vous entendant, beaucoup d'écrivains vont vous envier parce que vous n'êtes pas sujette au vertige de la page blanche.
Non.
C'est quelque chose qui vient spontanément, donc c'est une démarche qui est agréable.
Oui, parce que c'est pas bon, déjà c'est pas un métier, enfin c'est pour moi c'est pas un métier, je n'en vis pas, c'est pas mon métier principal, ça reste un plaisir, et le plaisir de partager des choses qui à un moment donné peuvent interpeller les gens. Moi, ce qui me fait plaisir et dont je me régale, c'est quand les gens me font des retours en me disant j'ai beaucoup aimé parce que je m'y suis reconnue, parce que j'ai visualisé l'histoire, parce que ça a été comme un petit film au fur et à mesure de la lecture, et c'est ça que j'ai envie de transmettre en fait.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que ça veut dire que la manière dont vous viennent les histoires nécessite forcément que ce soit des histoires courtes?
Je n'arrive pas à écrire quelque chose de long. Je n'y arrive pas. Je sais pas. Alors, j'ai pas trouvé la méthode ni peut-être le sujet pour en écrire une longue, mais ce que j'aime bien, c'est dérouler l'histoire sur 2, 3, 4 pages maximum. Et je trouve que dans ces 3, 4 pages, je donne tellement d'éléments de par l'histoire que c'est comme si tout était déjà en place. Et je ne me sens pas l'obligation de la prolonger plus longuement pour donner d'autres éléments. En fait, c'est comme si je voulais aller à l'essentiel en créant autour du personnage un environnement, un sentiment, de façon à ce que quand les gens lisent l'histoire de ces personnages, ils puissent capter qui ils sont. Très rapidement, en fait. Et quel est le problème qu'ils traversent, ou qu'est-ce qu'ils ont envie, ou quel est leur projet, ou... Et je sais pas, c'est comme s'il fallait que j'aille à l'essentiel, mais qui donne quand même de la consistance au personnage. J'ai pas l'impression d'avoir besoin d'écrire 50 pages sur Pierre, François et les autres pour leur donner une dimension, en fait.
D'accord. Eh bien, c'est dit. Christine Sérignac, je vous propose d'accueillir votre première invitée.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, n'est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps n'est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps n'est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps n'est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui dont veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui dont veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête. Et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Christine Sérignac qui nous parle de son livre « Et comme une évidence » paru aux éditions du Lys Bleu. Christine, vous avez invité M. Aznavour. ces textes sont-ils... Des sujets d'inspiration forts pour vous?
Oui, il écrit des textes sur la vie, avec la vie qu'il a vécue, et je trouvais que le temps était un texte que vous m'avez demandé de choisir des morceaux en lien avec le livre qui s'y prêtait bien. Moi, j'avais découvert ce morceau sur un film qui date de quelques années qui s'appelait L'Appartement avec Romane Bohringer, Vincent Cassel et Monica Bellucci, où c'était un trio, alors c'était pas un trio amoureux, c'était un couple, mais il y avait une troisième personne qui faisait un peu tout pour démonter ce couple de manière très stratégique avec des chassés croisés, etc. À l'image de la chanson de Charles Aznavour, et ça m'a fait penser aussi à mes personnages qui se croisent ou qui vont se croiser, ou qui ne se rencontreront jamais, ou peut-être un jour. Voilà, c'est un peu ça.
Alors, il y a cette notion du temps, et de manière plus large dans votre ouvrage, on est centré sur les thèmes du hasard, du destin, de la croisée des chemins.
Oui, et du sentiment amoureux. Je m'en suis un peu rendu compte en relisant le livre, où, effectivement, oui.
Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est à quel moment, vous nous avez expliqué comment vous écriviez, comment vous trouviez l'inspiration. Néanmoins, il y a un moment où ça bascule et vous dites « j'y vais ». Alors, on a compris les circonstances. pour ce livre, et comme une évidence, est-ce qu'il y a eu un élément déclenchant, un moment de bascule qui vous a fait dire « ah, ça y est, je le tiens, j'y vais ».
Oui, à l'écriture de la deuxième histoire. Je crois que je n'ai pas trop modifié en plus l'ordre des nouvelles, entre guillemets, des personnages. Ça a été à l'écriture du deuxième. Où, là, je me suis dit, il faut qu'il y ait du lien. Mais il ne faut pas qu'il y ait du lien de manière basique entre le premier qui va connaître le second, qui va connaître le troisième, etc. Je voulais que les lecteurs découvrent les liens au fur et à mesure de la lecture, mais en s'apercevant que peut-être le premier était lié au dernier, que le cinquième était lié au troisième, avec des allées et venues dans le passé, sur le présent, et pourquoi pas avec des projections sur l'avenir, en fait.
Alors, vous nous présentez votre recueil en disant « c'est un recueil de nouvelles ». Vous précisez qu'il faut le lire, ce recueil, dans l'ordre, impérativement. Cette recommandation de le lire dans l'ordre aurait peut-être tendance à lui faire perdre son caractère de nouvelle et au contraire appuyer sur son caractère de roman, puisque quand on est obligé de lire dans l'ordre, c'est qu'il y a un lien. S'il y a un lien, on se rapproche du roman.
Exactement, oui. Mais en fait, ça a été un peu... Alors, ça n'a pas été une grande discussion, mais moi, j'ai soumis l'idée que ce ne soit pas étiqueté comme un recueil de nouvelles, au vu du lien et de la construction du livre, avec une histoire qui reboucle sur le premier personnage. C'est un peu un puzzle qu'on reconstitue, mais l'éditeur n'a pas voulu l'étiqueter comme roman. Et donc, j'ai tenu à ce que soit noté sur la couverture qu'il fallait les lire dans l'ordre, parce qu'on sait très bien que des livres de nouvelles, on peut piocher à droite, à gauche, sans ordre prédéfini, et que si la personne le lisait dans le désordre, ça n'avait plus de lien, ça n'avait plus de sens.
C'est même difficile.
Ça aurait été difficile. Oui, et je pense que les gens auraient laissé tomber la lecture. Donc oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est un petit roman.
C'est un petit roman.
Oui.
Alors, un petit roman. Alors, on ne va pas dire en 13 chapitres, mais il y a 13 histoires.
Oui.
13 nouvelles, plus exactement. Mm. Alors, avec la structure de la nouvelle. Mm. Pour lesquelles vous avez, pour chacune d'entre elles, bien monté l'écriture et surtout la chute. Mm. Alors, cette chute, là, vous allez dire que j'insiste beaucoup. À chaque fois, je vous pose la question, est-ce que la chute est venue naturellement? Parce que j'attends votre réponse.
Oui. Oui, elle est venue naturellement. Au fur et à mesure de l'écriture de l'histoire du personnage, en campant un peu le décor, en lui donnant un prénom, et les prénoms ont du sens. Ils ont du sens. Pierre, qui est un peu dans la reconstruction de sa vie, Clémence, qui donne à voir quelqu'un de très posé, mais qui finalement va peut-être montrer un autre visage. Un autre personnage qui change de prénom en cours de route et on comprend au fur et à mesure pourquoi. Donc, c'est le prénom a du sens. Adrien, qui a une particule aussi. Donc, c'est la première identité quand on vient au monde, en fait, un prénom. Ça a du sens pour celui qui le donne, en même temps, celui qui va le porter. La fin n'est pas dans ma tête quand je commence l'histoire, en fait. Et c'est au fur et à mesure de l'écriture, de ce que je vais dire du personnage, dans la posture où je vais le mettre, que je vais décider si ça sera quelqu'un de bien, de sympa, de très noir, de très caustique ou de malveillant, en fait. C'est comme si, en fait, son destin dépendait au fur et à mesure que j'écris de mon stylo ou de mon ordinateur, entre guillemets. Mais je ne crée pas un personnage en me disant « Je vais lui faire vivre ça, je vais lui faire ça, je vais lui finir son histoire de telle manière. » C'est au fur et à mesure.
C'est au fur et à mesure, nouvelle par nouvelle.
Oui.
Mais néanmoins, j'ai une question. C'est, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre tous les personnages.
Oui.
Et on se demande... comment vous pouvez avoir effectué, écrit, rédigé les nouvelles, notamment les dernières,
oui,
qui sont quand même liées aux précédentes. Donc,
oui,
quelque part, il a bien fallu que vous orientiez ces dernières nouvelles en fonction de ce que vous aviez déjà écrit.
Alors, pris dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que quand j'ai écrit la première nouvelle et que j'ai ensuite écrit la seconde, je me suis dit, le lien... On va créer du lien. Alors, on va créer du lien. Et la dimension de créer du lien par des histoires passées, présentes ou futures, je trouvais me donner une vision très large et ne me bloquer pas dans un système où je me dis, il faut que ça soit maintenant, ce jour, ce mois, cette heure, en fait. Et donc, en écrivant les histoires de ces personnages, avec ces liens qui, dans le temps, s'étirent, me donner une marge de manœuvre sacrément grande, puisque ça m'a permis de parler des gens qui sont... jeunes, des gens qui sont qui ont 80 ans, des gens qui sont dans la cinquantaine. Donc, en fait, je me dis, le lien, des fois, il est filial, il est amical. Donc, en fait, c'est comme si je construisais avec ces personnages une histoire de famille, entre guillemets, avec des liens. Donc, effectivement, quand j'arrive au dernier... je me dis, il faut que l'idée de boucler la boucle et de revenir sur le premier était comme une évidence. C'était pour moi une évidence. Pour, à un moment donné, donner du poids à ces personnages en me disant « j'ai fini mon puzzle, chacun est à sa place, en fait ». C'est comme si les inscrire dans une histoire, ça leur donnait une légitimité d'exister et en même temps de mettre en avant leur souffrance, leur solitude, leur envie de passer à autre chose, etc. en fait. Je ne sais pas si je suis...
Si, si, tout à fait. Et alors, l'impression que l'on a quand on vous lit, c'est que, premièrement, on a tout à fait intérêt à mobiliser son attention, hein. La manière dont c'est écrit, le grand nombre de personnages, on s'approche un petit peu du roman policier où il y aurait beaucoup de personnages, savoir qui a fait quoi, qui est qui.
Oui.
Donc, il y a cet aspect-là. Et au-delà de ça, vous amenez le lecteur presque à la fin du livre, à un moment donné, un chapitre qui ne porte pas un prénom,
oui.
qui porte le nom donc d'interlude, et qui finalement fait un signe au lecteur en disant « Bon, là, on fait un petit point,
oui.
Tu te reposes,
oui.
Tu te reposes et je mets un peu les choses au point. » Alors, oui. Est-ce que c'était nécessaire, ça ?
Oui, je trouvais que c'était nécessaire parce que pour moi, c'était comme si ces petites interludes concernant les personnages remettaient de l'ordre pour le lecteur. Poser les liens de chacun et était une sorte, non pas de je clôture l'histoire, mais je vous laisse là dans des moments qui sont quand même assez sympathiques parce que c'est des gens qui ont quand même bien souffert par ailleurs. Et j'avais envie de finir sur ces moments-là parce que c'était des moments très positifs. Et finir sur ça en sachant que l'interlude n'est pas finalement la finalité du livre, puisqu'après. Il y a un dernier personnage qui n'est pas cité au début, mais qui, lui, va avoir aussi tout le lien, un lien très important. Donc, oui, cet interlude, c'était utile. Je ne me voyais pas finir les personnages en les laissant à la fin de leur histoire, passer à la suivante, les regrouper dans cet interlude, c'était donner une dimension et une égalité pour chaque personnage. Parce que, je ne sais pas, c'est comme si je les aimais tous, et que même s'ils ont des côtés un peu noirs certains... Je me suis bien amusée à écrire leur histoire.
Et est-ce que ça ne donne pas une dimension supplémentaire qui serait plutôt la dimension de dire, là, vous avez vu la destinée croisée d'un certain nombre de personnages, etc. Mais les choses ne s'arrêtent pas et que quelque part, ça va continuer.
Oui.
Et que si l'année prochaine, vous venez nous revoir avec une suite, on se dira, ben oui, c'est totalement possible.
Alors, j'y pensais, oui. Ouais. Oui, j'y pensais. Quand j'ai fini le livre et que j'ai écrit Des Intimistes et qu'il a été publié, c'est après que je me suis vraiment rendu compte à la fin de ce troisième livre édité que j'aimais beaucoup écrire sur les gens et des destins croisés, mais qui pouvaient être les gens qu'on croise dans la rue, vous, moi, n'importe qui en fait, mais en leur donnant cette importance qu'on a toujours quelque chose à donner, à laisser voir, à laisser entendre et que personne n'est muet dans l'histoire. Et je me suis posé la question si à un moment donné, je n'allais pas écrire une suite, alors soit de tous ces personnages, pourquoi pas de deux, trois qui me semblaient peut-être devoir continuer leur bout de chemin. Oui, pourquoi pas.
Bon, écoutez, nous sommes dans l'attente. Christine Sérignac, je vous propose d'accueillir votre seconde invitée que je laisse découvrir aux auditeurs.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. C'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent, tant qu'ils se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu. À peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps, les horloges se reposent et caresser, juste un baiser, un baiser.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Christine Sérignac qui nous présente son livre Et comme une évidence, paru aux éditions du Lys Bleu en 2024. Céline Dion aurait été un bon personnage pour votre livre, peut-être ? En termes de référence.
Oui, peut-être. Alors, je suis pas une grande fan de Céline Dion, mais bon, après, tout le monde chante ses chansons à tue-tête dans la voiture. Bon, la première, mais cette chanson, je la trouve très belle parce qu'elle est pleine d'émotions et que c'est une chanson que je peux écouter 10 fois d'affilée sans cesse parce que je trouve qu'elle est très... Comment dire ? Enfin, moi, je suis très sensible à ce genre de chansons qui apporte beaucoup d'émotions, de sentiments, et puis c'est une chanson où elle se livre aussi, donc je la trouve très belle. Ouais. Voilà.
Alors, nous poursuivons notre avancée dans « Et comme une évidence ». Alors, je rappelle aux auditeurs que ce livre, c'est un roman sans être un roman, c'est un recueil de nouvelles sans être vraiment uniquement des nouvelles, c'est un recueil dont les titres de chapitres sont des prénoms, c'est un nombre de personnages au nombre de 13, c'est vraiment une construction, une structure très originale. Juste, je voudrais revenir sur les prénoms. Alors, on a bien compris que chaque chapitre correspondait à un prénom. Oui. Comment avez-vous choisi les prénoms, justement ?
Alors, des fois, c'était une évidence. Et des fois, ça a été plus compliqué. J'ai dû changer un ou deux prénoms sur un ou deux personnages, ou trois peut-être. Parce que, au final, le prénom n'était pas en adéquation avec l'histoire. C'est comme, par exemple, Clémence, qui est un prénom qui est assez, assez doux qui laisse effectivement venir les choses. Il fallait quand même qu'il y ait une sonorité qui, je sais pas, qui pour moi me parlait plus en me disant il y a de la douceur et en même temps le cleu de début était quelque chose d'assez claquant et c'est quand même une personnalité qui à la fin se dévoile un peu particulière. Voilà, c'est des choses qui m'ont parlé à moi. Raphaël, c'est un prénom là qui est utilisé au féminin, qui est quelque chose de très doux comme le personnage. Donc Pierre, avec un projet de reconstruction, effectivement, hein, la pierre, le cairn, son idée de rando pour se reconstruire, ça avait du sens en fait. Adrien, voilà, sa notion de noblesse, c'était le prénom adapté. Et le nom de famille est issu, ben, tout simplement, quand j'écrivais l'histoire, je me baladais et il y avait un village qui s'appelait Fustignac. Et j'ai trouvé très intéressant de le coller à Adrien. Et ça fait Adrien de Fustignac. Donc en fait, il y a des fois des associations d'idées qui n'ont absolument rien à voir, mais qui des fois ont du sens pour moi. Voilà, Odette... est le nom d'une grande tante là, que j'ai perdue il y a un an et qui était à l'image du personnage. Donc je pense que j'ai aussi pioché, un peu dans tout, des caractères qui ont campé mes personnages. Ouais.
Alors ces personnages viennent aussi d'horizons divers. Explicitement, vous donnez des indications sur ce qu'ils font dans la vie. Mmh. Alors, il y a fleuriste, chirurgien, kiné, loueur de voiture, oui. Il y a un peu de tout. Ces gens-là, ils ont un point commun quand même. Comment on pourrait le définir, ce point commun?
Je pense qu'ils sont tous à la recherche de quelque chose. Voilà. Que ça soit... que ça soit l'amour, que ce soit une reconstruction, que ça soit un changement de direction, que ça soit... je sais pas, j'ai l'impression peut-être que en le relisant maintenant, je m'apercevrai que j'ai traité des problématiques qu'on peut tous rencontrer, une séparation, un divorce, un coming out, enfin, toutes ces choses-là, je sais pas. C'est des personnages qui sont vivants parce qu'ils ressemblent à tout le monde, en fait.
Voilà. Alors, ils ressemblent à tout le monde et il me semble qu'ils sont tous dans une démarche de quête existentielle, justement.
Oui, aussi. Oui.
Après une rupture ou après un accident de la vie.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et c'est ça qui fait le lien, finalement, entre les nouvelles.
Alors, ça, oui, c'est le lien. Alors, où est-ce que je pioche ça? Est-ce que là, je fais le lien avec mon métier ou moi, mon travail, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils se reconstruisent d'une certaine façon ou qu'ils trouvent... voilà, c'est pas prendre leur place, c'est leur donner les moyens de trouver des solutions eux-mêmes. Et je crois que les personnages, mine de rien, avec leur réorientation professionnelle pour certains, des échappatoires pour d'autres, ils arrivent à trouver aussi la clé tout seuls à leur histoire et à leur reconstruction entre celle qui va ouvrir un gîte et quitter sa carrière qui est quand même bien ancrée dans le médical, ceux qui quittent une vie parce qu'ils ont envie de se reconstruire après une rupture. Je pense qu'il y a tout ça, quoi.
C'est quelque chose qui est très présent dans le livre. Et quand vous contextualisez les nouvelles, on s'aperçoit que, en lisant chacune de ces nouvelles, il y a des choses en termes de symbolisme qui reviennent très, très fréquemment. Il y a la notion de montagne, de marche, oui, de sentier, qui sont comme une parabole un petit peu de la destinée.
Oui.
Hein, c'est ça, c'est la notion de chemin, la notion de distance à parcourir, ça,
oui,
c'est très fort. Hein.
Oui, ouais, oui. Je pense que la notion de chemin, c'est la symbolique que la route, elle ne s'arrête pas après un événement qui bloque. En fait, je me dis, il y a toujours un après. Comme on dit, après la pluie, le beau temps, il y a toujours un après. Et c'est un peu ma façon aussi de penser. Et je me dis, finalement, à travers ces personnages, C'est comme si moi, je m'étais aussi donné la perspective que finalement, après des échecs ou des choses qui ne sont pas sympathiques à vivre dans la vie, il y a toujours des choses intéressantes qui arrivent après. En fait, un échec, comme je dis souvent à ma fille, ce n'est pas un échec, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pour rebondir. En fait, il n'y a pas d'échec dans la vie. Et c'est cette dimension, malgré des histoires un peu particulières, où j'avais envie que ce livre il soit quand même assez optimiste. Et je trouve qu'il l'est. Voilà.
Alors, je confirme, effectivement. Et au-delà, effectivement, de cette notion de chemin, de route à parcourir, dans le symbolisme aussi, avec le gîte, souvent, vous introduisez cette notion d'espace hors du temps et d'espace de rencontre qui n'étaient pas forcément prévus et qui sont complètement aléatoires.
Oui, mais parce que je me dis souvent que les rencontres, j'ai envie de dire que les plus belles rencontres ou celles qui auront du sens, c'est celles qui se font souvent aussi par hasard, même si on dit que le hasard n'existe pas. Enfin, c'est comme ça que moi je vis les relations et c'est ça que j'avais envie de faire vivre à mes personnages. Et la notion qui est aussi importante dans ces moments-là qui sont réconfortants, c'est la notion de repas, c'est la notion de partage, c'est la notion de gourmandise. Voilà, quand on prend Raphaël qui va préparer le petit déjeuner, c'est des notions que je retrouve assez souvent dans mes nouvelles parce que ça a aussi une importance. Voilà.
Et c'est quelque chose qui se sent effectivement dans cette suite de nouvelles. Je me reprends. Moi, en lisant votre ouvrage, j'ai pensé à un film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique.
C'est un vieux film, ça.
Alors, c'est un film qui était avec Depardieu et qui avait pour thème de savoir si on était réellement libre ou déterminé par notre biologie et notre environnement. Et c'était un film qui proposait plusieurs sous-films en fonction des événements. Et je me souviens très bien qu'il y avait, à un moment donné, une voiture qui arrivait à un croisement dans la campagne, trop vite, etc. Et qu'en fonction de l'évolution du croisement entre deux voitures, il y avait plusieurs alternatives qui étaient proposées.
Alors, je n'ai pas en tête ce film. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au film qui est sorti il y a 2-3 ans qui s'appelait Le tourbillon de la vie, où effectivement, avec Isabelle Carré et d'autres acteurs, où il y avait effectivement, en fonction du choix du personnage central qui était une jeune fille, ça allait déterminer tous les événements qui allaient en découler de sa vie. Et c'était très intéressant. Et après, je le relis souvent au film, parce que ça, c'est un film que j'aime beaucoup, Les choses de la vie.
Oui, l'aspect hasard.
L'aspect hasard et l'aspect comment on peut avec cette fin tragique en même temps, ce message qui n'arrive pas, etc., comment aussi on n'est pas maître de certains événements, quoi, malgré tout.
Alors, et c'est là qu'on retombe sur cette notion de hasard.
Oui.
Et finalement, pour devenir maître du hasard, il faut savoir s'en accommoder.
Et puis, il faut aussi ne pas vouloir tout maîtriser, je pense.
Et ouais. C'est ça qui est peut-être le plus difficile.
Oui, parce que je pense qu'on a envie d'être maître de ses choix, mais en même temps, se laisser porter de temps en temps, c'est pas mal. Et c'est un peu ces invitations qu'ont certains personnages en faisant des rencontres, où finalement... Il suffit d'une soirée et tout peut basculer. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire, la porte est toujours ouverte.
Et c'est peut-être le message essentiel, d'ailleurs, de ce recueil de nouvelles. Oui. La porte est ouverte, rien n'est jamais définitif.
Non, voilà. Et heureusement.
Bon. Christine Sérignac, merci beaucoup pour ce message très positif. Je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront retrouver cette émission en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Et je tiens à m'excuser très humblement auprès de tous ces auditeurs pour l'état de ma voix qui, effectivement, a subi les outrages de maladies de saison. Je vous remercie. Je vous rappelle l'ouvrage de Christine Sérignac est comme une évidence, paru en 2024 aux éditions de Ulysse. Merci à tous, au revoir Christine.
Au revoir et merci.
Et bonne lecture à tous.